gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Pickets, do you feel good? Comment ça va? Bien. Bon.
Bonsoir à toi qui écoute le 102.2 de la bande FM ou sur radiocanu.org. Il est 22h et quelques petites minutes et c'est l'heure de la causerie comme presque tous les dimanches. Et ce soir dans les studios, nous avons Clara la technique.
Bonsoir.
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 Oh, ça va être usant.
C'est pour donner l'impression qu'on était plein.
Ah oui, c'est ça. Ah ouais, ça fait genre gros collectif.
Avec des voix différentes en plus.
Ah ouais, ouais. Waouh.
Bonsoir.
Waouh. Arrêtez. Les gens n'en peuvent plus derrière le poste. Ils sont perdus. Et nous avons aussi Fab dans les studios.
Bonsoir Jean-Yves. Et merci de faire l'ouverture de cette émission.
Bonsoir, mais je t'en prie. Bah quoi d'autre? Bah déjà bonjour tout ça, et puis ben bah, on va commencer tout de suite.
Ah direct comme ça on y va.
Bah je crois bien, et puis surtout c'est toi qui vas tenir le crachoir durant toute l'émission.
Alors si vous n'aimez pas ma voix, vous arrêtez tout de suite, partez, fuyez, ne restez pas. Donc voilà.
Alors on commence, en tout cas tu commences en nous causant de deux endroits sur la planète.
Ouais, deux pays hein, en l'occurrence, mais donc en ce moment en fait il y a deux conflits qui font un peu la une de l'actualité, hein. D'un côté l'Ukraine et la Russie qui a attaqué l'Ukraine, et de l'autre côté la guerre entre Israël et le Hamas, hein. C'est un peu ce qui prend toute l'espace médiatique. Alors s'il est évidemment plus que légitime hein, de s'intéresser et au-delà de s'opposer à ces deux conflits, ils ont quand même tendance à faire passer sous le radar plusieurs autres lieux où des humains auraient quand même bien besoin qu'on ne les oublie pas aussi un petit peu comme les autres. Voilà.
C'est ça.
Donc je vais commencer par vous parler d'Haïti, parce qu'Haïti on en parle assez peu globalement, ou souvent on en parle juste quand il se passe des choses graves, et puis après on oublie. Genre il y a un tremblement de terre, on en parle, et puis après, oups, Haïti disparu. Donc ben, pour ceux qui s'en souviennent, hein, Jovenel Moïse, qui était le président du pays, a été assassiné le 7 juillet 2021 par un groupe armé, a priori. Alors certains disent que c'est un gang, d'autres qui disent que c'est un groupe armé, d'autres qui disent que c'est des opposants politiques, on ne sait pas trop. Mmh. Mais en tout cas, il a été abattu, ça c'est sûr, il est mort. Donc il y a quand même une guerre des gangs qui était en cours, donc ça laisse quand même présager que c'était sans doute un gang, un des gangs en tout cas, et oui, qui aurait mené cet assassinat.
Oui, et puis gang ne veut pas forcément dire en dehors du jeu politique.
Ah non, du tout.
Enfin,
du
moi
tout,
j'ai le souvenir de la Jamaïque, par exemple, à chaque élection présidentielle, ah bah, oui, ça pétait, ça tirait dans les rues, parce qu'il y avait des gangs qui étaient affiliés à des partis politiques. En fait.
Bah, ton parallèle est bon, hein, parce qu'il y a plein d'observateurs justement, qui font le parallèle entre ce qui se passait dans en Jamaïque à l'époque de Bob Marley, ouais, c'est-à-dire années 70-80, ouais, et ce qui se passe aujourd'hui en Haïti. Donc oui, okay, ça résonne effectivement. Et donc, bah, c'est depuis le Premier ministre Ariel Henry, ou Henry, ça dépend comment vous le prononcez, et son gouvernement qui ont pris la relève et qui tentent de diriger le pays. Enfin, je dis tente parce qu'ils tentent, hein, vraiment. Sauf que c'est loin de s'être calmé, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Excusez-moi, je remonte un peu mon casque. Voilà, parce que je ne m'entendais pas très bien. Donc, en fait, du coup, j'avais l'impression de crier. Donc, en fait, voilà, la guerre des gangs, elle a repris de plus belle depuis quelques temps. Et alors qu'ils s'entre-déchiraient, hein, depuis des années, donc ce qui avait un côté un peu pratique, c'est-à-dire qu'ils s'auto-annihilaient.
Oui, pratique pour le pouvoir politique.
Pour le pouvoir politique, oui, bien sûr, hein, je veux dire. Ben là, en fait, ils se sont unis sous la bannière mère de l'ancien flic Jimmy Cherizier, qui est devenu chef de gang et qui est surnommé Barbecue. Alors, pourquoi Barbecue? Il y a deux explications. La première, celle qu'il donne lui, qui dit que Barbecue, parce que quand il était jeune, il allait vendre du poulet boucané avec sa mère sur les marchés. Okay. Et l'autre explication qui est donnée par d'autres personnes, qui disent que c'est parce qu'il aime bien faire brûler ses opposants dans leur propre maison. Voilà, vous prenez l'explication qui vous colle le mieux, qui sied le mieux, mais ça fait partie de la légende de Barbecue.
Oui, et presque en soi, voilà. Les deux ne s'opposent pas, quoi.
Non, tout à fait. Il peut tout à fait avoir vendu du poulet boucané et faire brûler ses opposants. Donc, il a créé les G9. Alors non, c'est pas un boys band, hein. C'est un regroupement de gangs devenu le plus puissant de l'huile, de l'île, pas du tout de l'huile, de l'île. Officiellement, le but de Barbecue serait de faire la révolution dans l'île et de venger le président qui a été assassiné. Ça, c'est ce qu'il dit à tout bout de champ. Dans les faits, que ce soit par la méthode ou par les actes commis, beaucoup d'observateurs, alors dans les observateurs, il y a notamment des journalistes indépendants haïtiens, il y a des ONG, il y a aussi des témoignages qui ont été recueillis. Ils pensent quand même que le chef Barbecue serait plutôt dans une position de despote qui se pense éclairé, hein, voilà. Loin de vouloir établir une forme de démocratie ou de redonner du pouvoir à la population, il aurait plutôt tendance à penser que tout ce qu'il pense est juste et donc il faut faire ce qu'il pense. Voilà.
Un bon chef, quoi.
Un bon chef comme il faut. Donc aujourd'hui, Cherizier, hein, donc il contrôle avec ses hommes 80% de Port-au-Prince, hein, qui est la capitale, hein, pour ceux qui ne le savent pas, d'Haïti, et plus de 50% du pays. Voilà. Et dans les 50% du pays, il détient 70% de la force économique haïtienne, vu qu'il détient tous les quartiers dits de production. Donc quasiment. Donc voilà. Donc les méthodes de Sieur Barbecue, hein, elles sont assez connues. Hein. Quand il était dans la police en 2017, il a participé à ce qui était censé être une opération anti-gang et qui en fait a abouti à l'exécution sommaire d'au moins 9 innocents dans le quartier de Grand Ravine à Port-au-Prince. Voilà. Alors pourquoi il a assassiné 9 innocents? C'était pour faire peur à la population. Ouais. C'est très efficace. Hein. Évidemment, il l'a fait au profit de ceux qui le reprendront en leader ensuite, parce que c'était aussi récupérer des territoires. Vous voyez. Un an plus tard, hein, Cherizier, il a aussi participé au massacre de la Saline avec sa bande, à l'époque Delmas 6. Ouais, c'était leur nom. Ouais, alors je sais pas où les gangs trouvent leur nom, hein, mais voilà.
Ils ont peut-être un dictionnaire spécifique.
Ouais, c'est peut-être comme les jeux où tu. et donc ils sont unis. Déjà à l'époque, ils se sont unis les Delmas 6 avec d'autres groupes et ils sont allés faire en fait ce qu'ils appelaient une action punitive. Hein. Donc en fait, l'action punitive, ça a été juste l'un des pires massacres qui est connu à Haïti ces 10 dernières années. Le bilan est estimé à au moins 71 morts pour les corps qu'on a retrouvés. Pour être très précis. Donc Cherizier, il a été du coup révoqué de la police, parce qu'il était encore flic à l'époque. Hein,
okay.
Il a été révoqué de la police un mois plus tard et un mandat d'arrêt a été lancé contre lui. Mandat qui court toujours, mais comme Cherizier Barbecue, donc, est aujourd'hui à la tête des C9, et pas G9, j'ai dit G9, non, mais c'est C9, pardon. Okay. C'est-à-dire un regroupement des 9 plus gros gangs de l'île, d'où le nom, C9. Ça le rend plutôt intouchable, hein, pour être clair, parce que c'est un peu compliqué d'aller chercher. Ah oui, parce que pour ceux qui auraient l'image des gangs des années 70 dans les films américains, c'est pas ça. C'est des gens qui sont armés, qui ont des kalachnikovs, des lance-grenades. Voilà, ils sont très très bien outillés. C'est pas juste des gens avec des machettes ou des choses comme ça. C'est ce qui serait déjà énorme et totalement inadmissible. Mais c'est des gens qui font régner la terreur aussi avec des armes lourdes. Hein, voilà, donc c'est pas simple d'aller chercher Monsieur Cherizier. Donc lui et ses hommes, ils sont coutumiers quand même des exactions violentes et des opérations dites de nettoyage des quartiers, parce que ça c'est son grand truc à Cherizier, c'est qu'il dit je vais ramener le calme dans l'île en nettoyant les quartiers. Alors vous doutez bien que nettoyer les quartiers, c'est avant tout viser ses opposants, hein, sinon c'est pas marrant. Donc il fait des incendies de maison, hein, voilà, c'est son truc ça, ils mettent le feu à la maison. Alors parfois avec les gens, hein, qui s'opposent à eux ou qui ne sont pas affiliés au bon gang, qui restent bloqués à l'intérieur, voilà, c'est pour ça que certains disent que Barbecue, ça viendrait plutôt de ça, son surnom. Il y a aussi des exécutions sommaires en pleine rue, hein, des gens qui se retrouvent tués. Alors, ils ont d'ailleurs, des fois, ils n'ont aucun lien avec les gangs ou quoi que ce soit, mais c'est une politique de la peur. Hein, c'est-à-dire, vous venez, vous tirez dans le tas et puis vous repartez. Hein, comme ça, voilà. Donc, les méthodes sont sanglantes et sans état d'âme, très clairement. Hein, voilà. Donc, aujourd'hui, la situation en Haïti, elle est totalement aux mains des gangs, ou presque. Hein, le pays a quasiment basculé dans les mains de ce monsieur Cherizier, donc Barbecue, hein, jusqu'à peut-être qu'il se fasse tuer par un leader d'un autre gang, voilà, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, ils font régner la terreur et ils ont remis au goût du jour, hein, des formes d'esclavage et de prostitution forcée. Donc voilà, c'est pas pour des gens qui veulent faire la révolution, a du mal à les croire, voilà, s'il ne ferait pas trop ça. Donc Barbecue, il se rêve quand même en chef incontesté de l'île, et il est prêt pour cela quand même à servir toute la population, vu qu'il affirme il faut soit se plier, soit se soumettre. Bon, le choix est large, non ?
Oui, franchement. Ouais.
Ça laisse beaucoup, ça laisse beaucoup de liberté.
Ouais, on sent que ce monsieur, il a le sens très large de la liberté. Donc la République dominicaine, hein, qui est donc juste à côté, je rappelle que l'île est coupée en deux, d'un côté Haïti, de l'autre côté la République dominicaine, elle vient de fermer ses frontières pour éviter la propagation des gangs. Mais cela, en fait, ça aggrave la situation parce que il y a beaucoup de Haïtiens qui travaillaient en fait en République dominicaine. Et on estime que c'était plus de 20% des salariés de la République... pardon, je dis une bêtise. 20% des salariés haïtiens travaillaient en République dominicaine. Donc ça ferme les frontières pour 20% des travailleurs haïtiens.
C'est énorme.
C'est énorme, oui. Donc du coup, ça crée, ça réaugmente la pauvreté. Il y a déjà une crise énorme en Haïti depuis les deux tremblements de terre. Donc c'est extrêmement compliqué. Et du coup, ça vient rajouter une couche qui, finalement, renforce aussi les gangs. Parce que c'est aussi le paradoxe. C'est-à-dire qu'en fait, une espèce de roue qui se met en place. Parce que le gang, lui, il vous promet que si vous rentrez dans le gang, vous aurez à manger au moins deux fois par jour. Ce qui peut être tentant dans un pays où on manque de bouffe.
Oui, mais de toute façon, c'est souvent comme ça. Hein. Enfin, je veux dire, même les mafias, ou, enfin, c'est,
voilà, ouais,
je mets des équivalents, mais c'est
de la mafia, ouais,
en fait, ça. Mais comme finalement les fachos aussi, en fait, ils ont une capacité à surfer sur la misère ouais. En fait, et à essayer de récolter les fruits, quoi. Et ce qui est terrible, c'est que oui, ça fonctionne, mais en même temps, ventre creux n'a point d'oreille.
C'est ça, exactement. Et du coup, il y a le gouvernement qui reste, hein, le Premier ministre, il a quand même demandé de l'aide internationale. Alors pour deux choses, hein. La première c'est pour la nourriture, la deuxième si on pouvait l'aider un peu militairement, enfin ce qu'il dit là il y a un moment, il est un peu coincé, hein, parce qu'il ne ferait plus vraiment de force de police. Il faut savoir qu'il y a un policier tué toutes les 3 heures en Haïti en ce moment, cette semaine, c'était le taux moyen, ce qui est quand même assez énorme. Mais en fait personne ne répond, très clairement, alors, personne.
Voilà. Ah, tout le monde s'en fout en fait.
Ah ouais clairement. Alors même la Russie et la Chine, hein, donc
c'est dire
qui aurait pu, certains disent, aller mettre les pieds là-bas pour rentrer sur le territoire américain, vu que les USA sont pas très loin. Eux, ils laissent complètement crever Haïti, ils en ont rien à foutre. Et les USA, alors pareil.
Mais parce que finalement, enfin après, c'est très, attention, je vais être très froid dans le truc, mais c'est comme ça que sont aussi les géopolitiques, c'est qu'en fait, il n'y a rien à tirer de Haïti.
Ah, il n'y a pas de richesse quasiment, donc forcément.
C'est pour ça que tout le monde s'en fout, quoi.
C'est exactement ça. Il faut savoir quand même qu'il y a heureusement une diaspora haïtienne assez, assez forte, notamment aux USA, et qui commence à un peu faire bouger des gouverneurs. Vous savez qu'en ce moment aux États-Unis, c'est les élections, donc il y a quand même aussi un enjeu, voilà. Et donc du coup, il y a quand même quelques États américains qui commencent à faire des collectes, notamment de nourriture. Sauf que quand elle arrive sur l'île, elle est généralement captée par les gangs, et donc les gangs qui assurent la redistribution d'après eux. Mmh. Donc on imagine bien comment ils choisissent à qui ils redistribuent, même si on peut se dire que si ça avait été l'État, ils auraient peut-être pas redistribué à ceux qui pensaient faire partie des gangs. Donc c'est un truc un peu sans fin.
Oui, c'est ça.
Qui fait que tout part mal.
Ce qui fait que tous ceux qui sont tenants d'un pouvoir, ils ont souvent le ventre assez bien rond.
C'est ça.
Là où la population a le ventre creux, quoi.
C'est ça, exactement. Donc en fait, Haïti, et surtout les Haïtiens et Haïtiennes, ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Et la population subit globalement l'une des pires crises politiques et humanitaires dans la région. Dans finalement le plus grand désintérêt généralisé. Et c'est ce qui, moi, faisait que j'avais envie d'en parler ce soir. Parce que non pas que de solution ou quoi que ce soit, mais je trouve que c'est important quand même qu'on se rende compte qu'il y a quand même une île qui aujourd'hui est un peu à feu et à sang, et qu'on n'entend pas tellement parler, alors que la situation elle est quand même extrêmement catastrophique. Voilà, donc ça c'était la partie
Oui, mais Haïti, t'as l'impression que ça va de merde en merde, en fait.
Enfin, ouais.
Je sais pas, la meilleure période qu'ils ont pu vivre, combien de temps elle a duré, en fait, c'est horrible,
court.
En fait,
c'est déjà... Ils sont sur une faille sismique, hein. Ils ont régulièrement, il y a des tremblements de terre assez conséquents.
Il y a aussi dans l'histoire que Haïti, pendant des années, a dû payer des milliards à la France.
Ouais. Pour avoir son indépendance.
Pour acheter sa liberté, son indépendance, on est quand même dans des trucs...
C'est une île qu'on n'a pas aidée. Hein.
C'est Haïti, tout va contre elle.
Et d'ailleurs, c'est
horrible.
C'est bien que tu le soulignes, parce que j'ai oublié de le dire, mais il y a quand même beaucoup de monde qui disent que ce serait quand même bien que la France vienne en aide à Haïti. Parce que, alors pas forcément pour les gangs ou quoi, mais au moins pour la nourriture. Parce que quand même, justement, on a fait payer une dette assez colossale à cette île, qui fait qu'on l'a mis dans la merde. Donc à un moment donné, ce serait bien qu'on répare un minimum en se disant, là, on peut quand même apporter à la population haïtienne de quoi bouffer, quoi, tout simplement. Et ce qui est souvent, ça aide.
Ouais, j'avais, je crois, j'ai un chiffre. Ouais, c'est le paiement à la France ont coûté en Haïti entre 21 et 115 milliards de dollars.
Ah, ça, c'est hallucinant.
Pour un pays, enfin, pour une île.
Qui a très peu de richesse.
Qui a très peu de richesse. Ouais. Enfin, c'est vraiment, si vous voulez, enlever toute chance, ou en tout cas diminuer fortement les chances à quelqu'un de pouvoir viser un futur radieux, bah vous vous y prenez ça. Comme ça en fait. Hein.
Mais la France a souvent fait ça, hein,
bah, oui.
Pour être très clair.
Ouais. C'est la grande patrie des droits de l'homme, toi, qu'est-ce que tu crois? Ça se mérite.
Et des financiers.
c'est ça.
Donc, du coup, voilà. Donc ça c'était pour Haïti, et alors, je suis désolé, je ne vais pas être beaucoup plus joyeux sur la deuxième partie, mais je voulais revenir sur ce qui se passe au Soudan, hein, parce qu'on a déjà quand même parlé plusieurs fois du Soudan dans la causerie, mais on essaie de pas trop perdre de vue ce qui s'y passe, hein. Donc la situation sur place, elle est quand même loin de s'améliorer. Comme on l'avait évoqué, on a déjà parlé dans plusieurs causeries, donc vous cherchez, hein, dans le moteur de recherche de notre blog, vous cherchez Soudan, vous allez trouver. Il y a un an de ça, hein, pour ceux qui ont un peu de mémoire, deux généraux ont décidé de mettre fin à la révolution en cours, hein, mais les deux en même temps. Et ils voulaient prendre le pouvoir en même temps. Et ils ont lancé une guerre entre leurs factions, hein. Et donc la guerre, elle fait rage depuis dans le pays, hein, entre l'armée régulière du général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires des FSR du général Mohamed Hamdan Daglo, voilà, et qui est ancien numéro 2 du pouvoir militaire. Donc en gros, c'est le numéro 1 et le numéro 2 qui voulaient prendre le pouvoir.
Eh ouais.
Voilà. Sauf que les populations, elles subissent depuis un an un état de guerre et les conséquences de celui-ci. Et alors, quand on parle d'un état de guerre, c'est une guerre totale. C'est-à-dire que vraiment, il faut vraiment imaginer une guerre comme on l'imagine tout le temps, avec des maisons rasées, avec des bombes envoyées sur les populations, tout ça. C'est pas parce que je dis ça parce que j'ai lu quand même des gens qui disaient: oui, mais ça va, c'est des échauffourées. Alors non, c'est deux factions militaires, donc ils sont tous les deux avec des avions, tous les deux avec des chars, donc voilà, je vous laisse imaginer.
Et qui, je crois, aiment bien bombarder certains quartiers,
ah,
qui savent que
il
y a des quartiers
des trucs,
plus, on va dire, ouais, militants ou autres.
Ouais, alors déjà, ils ont bombardé aussi bien des deux côtés tous les quartiers qui étaient vus comme des quartiers révolutionnaires, et ensuite ils sont allés faire ce qui se fait beaucoup au Soudan quand on veut garder le pouvoir, de la division ethnique, pour aller dire, il faut tuer ceux-là parce que ceux-là, ils sont moins bien que ceux-là. Voilà, toujours le même procédé. Donc les populations, elles subissent les conséquences, hein, comme je disais. Et le Soudan compte aujourd'hui entre 7 et 8 millions de déplacés. Hein, voilà. Donc c'est très clair, c'est la plus grande population de personnes déplacées au monde aujourd'hui. Alors c'est énorme, hein, 7 à 8 millions de déplacés, parce qu'ils vivent dans des camps de fortune, pour la plupart, parfois dans des pays limitrophes, parfois dans le Soudan lui-même, c'est-à-dire dans le désert, parce qu'en fait, si vous regardez, si vous connaissez un peu le Soudan, les parties où on peut fuir, c'est des parties où il fait extrêmement chaud et où il n'y a personne, donc voilà. Ils sont souvent sans eau et sans électricité, donc voilà. Donc en visite sur place, hein, il y a Volker Turk, alors pour ceux qui le connaissent, c'est un haut commissaire des Nations Unies aux droits humains. Il est assez connu parce que c'est quelqu'un qui a tendance à se déplacer sur les terrains de lutte, parce que lui, il estime que sa place, elle est sur le terrain pour voir, et pas juste dans un bureau à recevoir des rapports. Donc il est assez connu pour être quelqu'un d'offensif, on va dire, dans le sens, il se déplace. Donc il a décrit la situation comme ça. Alors je vous lis, hein, ce qu'il a dit. « Le Soudan est devenu un véritable cauchemar. Les civils soudanais vivent dans un climat de pure terreur en raison du conflit impitoyable et insensé qui secoue la région. » Alors, il faut savoir un truc, c'est que Volker Turk, quand il emploie des mots, il les pèse. Donc, quelqu'un qui est comme lui et qui parle d'impitoyable et insensé, ça veut dire que c'est vraiment d'une violence absolue, parce que sinon il ne dirait pas impitoyable, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Il ajoute même, hein, devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui l'a auditionné, « La crise au Soudan est une tragédie qui semble s'être glissée dans le brouillard de l'amnésie mondiale. » Voilà, je partage d'ailleurs son point de vue, je trouve qu'il a parfaitement raison, c'est-à-dire que ce qui se passe au Soudan, on n'en parle pas, tout simplement. Et pourtant, je vous le redis, 7 à 8 millions de déplacés, soit le plus grand nombre, la plus grosse population de personnes déplacées en ce moment. Mmh. Voilà. Dans son rapport, un Volker Turk qui parle de dizaines de personnes tuées, et comme il le souligne, apparemment sans remords. Parce qu'il a interrogé des militaires, parce que c'est son boulot, hein, et en fait, a priori, personne ne lui a dit « je t'ai obligé » ou voilà. Non, il était content de le faire. Voilà. Donc 14 600 personnes seraient mortes selon les données recueillies, mais bien des observateurs, ONG, journalistes ou membres de l'ONU estiment que ce chiffre est grandement minoré, hein, et que certaines sources parlent même d'une sous-estimation de 10 fois le nombre de morts réels, ce qui nous amènerait à quand même pas loin de 150 000 personnes. Voilà. Oui, parce qu'en fait, il y a des ONG, notamment, qui disent, bah, comme de toute façon, on compte pas les morts et qu'on ramasse pas les cadavres, à un moment donné, pour savoir combien il y a de morts, c'est compliqué. Oui. C'est horrible hein, ce que je suis en train de raconter, pardon, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui en ce moment au Soudan. Donc, car il y a un rapport de Human Rights Watch, hein, il y a les morts directes hein, par arme, c'est ce qu'il souligne, mais il faut aussi tenir compte des morts dites indirectes. Alors, tout le monde dit, qu'est-ce que c'est que les morts indirectes hein? Eh ben, en fait, c'est les morts qui sont liées au déplacement de population, c'est-à-dire qu'on meurt en se déplaçant, parce que voilà, au manque de soins ou à la faim. Et voilà, certains convois humanitaires hein, d'ailleurs ont été volontairement mis à sac par les belligérants des deux camps pour éviter que les réfugiés aient à manger. Donc on affame les gens volontairement. Voilà. Alors je cherchais pourquoi, parce que je me suis dit c'est drôle bizarre. Non, c'est parce qu'en fait ils manquent de bras dans leurs armées respectives, et donc ils proposent après aux gens de venir rejoindre l'armée pour pouvoir avoir à manger. Moi, j'aime le cynisme des militaires. Je suis ironique. Hein, voilà. Donc aujourd'hui, entre les ONG et les Nations Unies, l'estimation est que près de 6 millions de Soudanais et Soudanaises sont victimes de la famine. Voilà, c'est énorme. Hein. Et celle-ci pourrait rapidement toucher 18 millions de personnes sur place d'ici la fin du mois de mars.
Demain.
On est le 3 mars. Voilà. Oui, donc en ce moment même, il y a 18 millions de personnes qui risquent de subir la faim et donc des dizaines de milliers qui risquent d'en mourir. Et on n'en parle presque pas, ou presque, parce qu'il y a quelques personnes qui essayent d'en parler. Je vais juste quand même le dire parce que je trouve que c'est plutôt important des fois de souligner quand les choses sont bien faites. Je vais remercier Arte, ce qui est une chaîne qui suit ce qui se passe au Soudan depuis très très longtemps et qui elle par contre a fait trois séries de reportages récemment sur la situation au Soudan avec tout ce qu'ils arrivaient à voir parce que sur place les journalistes sont interdits ou sont tués. Donc voilà, mais ils essayent de quand même faire sortir alors qu'il y a des tas d'autres chaînes qui s'en foutent complètement ou de radio ou autre. Donc c'est bien aussi de souligner quand c'est fait. Donc si vous voulez des infos, vous pouvez aller sur le site d'Arte au niveau des des reportages
Arte
reportages, ouais. Donc les deux généraux hein, qui font s'affronter leurs troupes ont fait savoir, hein, évidemment, qu'aucun des deux n'avait l'intention de poser les armes ou de diminuer les offensives. Hein, voilà, ce qui laisse quand même à craindre le pire pour la suite.
C'est ça.
Quand même. Donc, par contre, les deux se sont engagés à ce que le conflit ne déborde pas des frontières soudanaises.
Bon, bah...
non, mais,
je sais pas voilà. Si ça rassure les Soudanais.
Non, mais c'est parce qu'en fait, les deux ont peur qu'il y ait des pays extérieurs qui interviennent, donc du coup ils rappellent que non, c'est en interne, vous inquiétez pas.
Oui, voilà. Vous inquiétez pas, on tue juste la population.
On tue que notre population. Voilà.
Pas de soucis.
Donc aujourd'hui, le silence international autour de la situation au Soudan, que ce soit de la part des nations comme des populations, hein, finalement, en général, c'est quand même plus qu'inquiétant, hein, parce qu'il démontre qu'on peut avoir finalement des massacres de masse, des morts par milliers, sans que cela ne fasse vraiment réagir. Voilà, c'est une des failles dans notre humanité et dans notre vision d'une humanité unie et soudée, c'est-à-dire qu'en fait, on a encore du mal à rester connecté à toute l'humanité pour savoir où elle souffre et pouvoir dire que c'est pas admissible, voilà, puisque après tout, on pourrait tout à fait défiler pour dire cessez le feu au Soudan, ce serait une bonne chose, par exemple, et peut-être qu'il va falloir qu'on s'y mette parce que c'est inquiétant que tout ça se passe sous les radars.
Donc, et peut-être même qu'un jour on pourrait se dire faudrait cesser le feu partout.
Ouais, tout à fait. Non, mais alors,
je suis complètement fou. Quoi.
Moi, je finissais ma chronique comme ça d'ailleurs.
Ah, pardon.
Non, mais c'est pour dire, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est la complexité du conflit au Soudan entre les deux généraux qui les empêche de choisir un camp. Alors, sauf qu'en fait, il ne s'agit justement pas de choisir un camp, hein, mais bien de demander un cessez-le-feu immédiat pour sauver des milliers de vies, quels que soient les belligérants. Voilà, c'est le truc. Et donc, arrêter une guerre, c'est jamais choisir un camp. D'ailleurs, c'est choisir la paix. Et donc, choisir la paix, c'est choisir le cessez-le-feu partout où la guerre a lieu, quel que soit
Mais il y a un truc quand même, il faudrait choisir en fait.
Ah ben, il y a des gens. J'ai eu des discussions, on m'a expliqué ça gentiment.
Je veux dire, en fait, quand t'as un truc comme ça, les deux camps, ils font quoi en fait?
Ils veulent le pouvoir par la force.
Ils veulent le pouvoir, ils affament les populations, ils les tuent. Bon, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment à choisir, ou si ce n'est à la rigueur, choisir le soutien à la population, et pas les pouvoirs.
Et soutenir notamment les révolutionnaires soudanais, parce qu'il reste encore quelques-uns, qui essayaient d'instaurer une démocratie égalitaire, je vous le rappelle, où les hommes et les femmes avaient les mêmes droits, et qui ont essayé pendant un an et demi de faire émerger dans cette région où c'est si compliqué, l'équivalent d'une démocratie, on va dire, un peu libérale, comme on dirait ici, mais ce qui est déjà un grand pas quand on voit d'où sort le Soudan. Et donc voilà, c'est quand même pas anodin et c'est pas rien. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est le silence, quoi. Et ça m'a un peu fait bizarre de me dire qu'on avait ces millions de personnes qui risquent quand même de subir une famine généralisée et que finalement, bah, on a très très peu d'écho, de retour. Peut-être parce qu'on est focalisé sur deux autres zones de guerre, comme je le disais, mais peut-être aussi que ça veut dire qu'à un moment donné, il faudrait revoir notre vision de
notre logiciel
de ce qu'est la guerre, de comment on peut l'arrêter, de sur quoi il faut faire pression. Enfin, voilà.
En fait, c'est tout le problème, c'est que là, dans les deux cas que tu disais, dont on parle souvent, hein, Israël, Palestine, Ukraine, Russie, en fait, c'est facile de choisir un camp. En fait, il y a presque tout le monde a choisi un camp, en fait.
Oui, il y a peut-être de ça. Ouais,
non, mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, je trouve, en fait. Quoi.
Possible, ouais, possible.
Parce que chacun a ses choix à faire, ou pas, d'ailleurs. Mais ce qui fait que, alors que là, en fait, c'est dans un même pays. Ouais, mais... Donc là, vraiment, c'est entre eux, c'est leurs affaires, quoi.
Mais souvent,
et avec un côté plus... peut-être aussi un petit peu paternaliste ou un peu raciste, en se disant, tiens, mais ça, c'est l'Afrique, hein, c'est comme ça, là-bas.
Ouais, mais sauf que non, quoi. Enfin,
il y en a tellement.
Donc, là, mais c'est ça, le problème.
Cette vision-là.
Ouais, mais c'est ça, le problème, c'est que, justement, et enfin, voilà. Moi, j'ai pas de solution, encore une fois, les deux situations dont j'ai parlé, là, je suis pas là, j'ai pas de solution, je peux pas vous dire, il faut, voilà. Simplement, je me dis que, bah, peut-être que si elles sont un peu plus connues, si on en parle un peu plus, si, effectivement, on peut faire pression aussi sur nos gouvernants à nous, même si on les aime pas, mais qu'à un moment donné, bah, ne serait-ce que pour l'urgence, hein, l'urgence alimentaire, bah, peut-être qu'il va falloir s'y mettre. Moi, je rappellerai juste pour le Soudan qu'il n'y a pas très loin, il y a Djibouti, hein, où il y a des bases françaises. Donc, ça ne doit pas être très compliqué d'acheminer à bouffer. Je ne parle pas des armes, là, ou quoi que ce soit, je parle à bouffer. Mm-hmm. Vous voyez que les populations ne meurent pas de faim. Ça doit pouvoir être faisable, quand même, à un moment donné. Et pour Haïti, c'est pareil, quoi. On a des moyens, et notamment, la France a des îles pas très, très loin. Et de la même façon, la France peut parler aux Américains qui sont à deux pas en disant, bon, est-ce qu'on ferait pas un pont humanitaire rapide? Parce que, quand même, il y a des populations qui ont la dalle. Voilà. Mais c'est vrai que ça, et ça c'est de l'urgence, je parle pas de résoudre le problème, je parle juste déjà de l'urgence. Donc voilà, mais si on fait comme si ça n'existait pas, bah c'est sûr que oui, ça se passe sans heurts, quoi. Enfin, sans heurts chez nous.
Pour nous.
Pour nous, parce que pour eux, c'est terrible. Voilà.
C'est ça. On passe à la zic ?
Ouais, c'est parti.
Allez.
Football in day. I'm going on about it in the morning to me. I'm losing in the end and I've gone too far. Force 10 from that Verone is a shot by Dodd. Cause we never aimed it in the box of isolation. Jason, why does the darkness hello? Cross sectioned, it's not a drink and I don't fucking smoke. Jason, why does the darkness elope? Cross-sectioned, it's not a drink, and I don't fucking smoke.
Mummy can't reach, and then a pause. You look different, a large green blob. Allergic to your own things. Get married and go on safari. Fucking viral fucking Batman video, you fucking moron. Why don't you phone up? Spine bend, leg sink, scooter club shit smell. That's my roadkill hat, don't touch it.
Jason, why does the darkness elope? Cross-sectioned, it's not a drink, and I don't fucking smoke. Jason, why does the darkness elope? Cross-sectioned, it's not a drink, and I don't fucking smoke. Instinct is all, it's a meat to our bones. So hang on to the cable car, force 10 from Navarone. Freeze if your balls and keep your gun around your neck. Force 10 from a contract. He still believes he's not dead, but it is. Fucking dead, fucking dead. Jason, why does the darkness elope? Cross-sectioned, it's not a drink, and I don't fucking smoke. Jason, why does the darkness elope? Cross-sectioned, it's not a drink, and I don't fucking smoke. Thought it, force 10 from Navarone. Bet you never.
Oh, coupure nette, dis donc.
Ça serait pas un peu du punk?
Oh, quelque chose qui ressemble, dis donc. Alors, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu, c'est toujours la causerie, comme tous les dimanches de 22h à 23h. Et là, on vient de s'écouter un titre des Sleaford Mods en compagnie de Florence Shaw. Le titre, c'est Forsten from Navarone. Et pour celles et ceux qui aiment Sleaford Mods, je vous conseille, parce qu'ils ont fait qu'une date en France, sur Arte Concert, vous avez le concert des Sleaford Mods. Avec,
gratos.
Gratos, et après la sortie de l'album UK Grim. Donc vraiment, allez-y, c'est un délice pour ceux qui n'ont pas la chance de les voir en concert.
Et j'ai dit une bêtise, en fait, c'est du post-punk électro.
Eh ouais, c'est du post-punk.
Ouais, tout ça. J'adore ces étiquettes. On sait plus de quoi on parle.
C'est du post-punk déconstructiviste, post-industriel. On s'en fout. Pardon, c'est Fab.
Avec des morceaux de punk.
et des boîtes à rythme. Donc, c'est Fab qui continue, hein, j'avais prévenu. Et donc,
il n'a rien foutu, il n'a rien branlé cette semaine.
C'est exactement ça, c'est vrai, j'avoue. J'irai me confesser. Pardon. Donc, c'est toi, Fab, qui continue avec une sorte de retour des croyances.
Voilà, c'est un petit peu le retour du religieux, le retour de la science. Vous voyez, c'est un petit peu ça ma question. Je vais vous expliquer pourquoi
c'est ça.
C'est où? Parce que les deux vont pas souvent ensemble.
Oui.
Alors, en ce moment, il y a quand même une drôle d'affirmation. Hein. Dans les milieux dits critiques, de gauche, anarch et d'extrême gauche, une petite musique prend de l'essor. En ce moment, on vivrait sous une sorte d'offensive de la science sur nos vies et vers une dictature scientifique. Voilà. Bon, j'ai l'habitude que nos milieux soient déconnectés souvent du réel, hein, y a pas de problème. Mais là, c'est tellement énorme qu'on peut quand même se demander si ceux qui affirment cela sortent de chez eux et de leur bulle militante de temps en temps. Alors d'abord, ils confondent deux choses, science et technologie. C'est pas pareil, la science et la technologie. Que la technologie s'immisce de partout, c'est un fait. Hein. Pour le meilleur, ça sert parfois, et sans doute parfois pour de mauvaises raisons. Je vais pas dire pour le pire, parce que ça veut rien dire, ça ferait un petit côté mariez-vous. Pour le meilleur et pour le pire.
Je comprendrais pas.
Mais ça n'a quand même pas grand-chose à voir avec la science en elle-même. Et les savoirs scientifiques. Bah non. L'utilisation des technologies, hein, comme on l'a déjà dit dans la causerie, ça repose avant tout sur des choix politiques. C'est qu'est-ce qu'on fait de la technologie, comment on l'utilise, quelles limites on lui met. Ça, c'est des choix politiques. Et c'est bien là que le bât blesse. Comme nos milieux s'éloignent des connaissances scientifiques et des avancées de celles-ci, ils se privent d'une réelle capacité, finalement, à penser le réel et influer sur celui-ci. Se repliant sur un sujet sans raison et sans fond, sur un rejet, pardon, sans raison et sans fond, c'est tellement plus facile. Hein, voilà, je trouve que c'était beau, c'est caca. Voilà, c'est un peu très primaire, hein, mais on est là.
Et binaire.
Et binaire. Sauf que cela est quand même la porte ouverte au mysticisme et autres, hein, parce que quand vous rejetez la science ou les sciences, ça ouvre la porte au mysticisme. C'est rarement l'inverse qui se produit. Justement, c'est gagné, parce que c'est bien cela qu'on observe en ce moment. Un retour du religieux, des superstitions et des croyances.
Oh, pourquoi tu dis ça?
Bah, je sais, hein, qu'on en a déjà parlé dans l'émission, mais j'avais envie ce soir de revenir un peu dessus parce que je suis plus qu'inquiet que ces obscurantismes qui semblent toucher toute la société, y compris nos milieux qui auraient dû en être prémunis, théoriquement. Hein, voilà. Alors ça commence par une annonce qui m'a fait bondir. Pardon. La semaine dernière, quand nous préparions les brèves à annoncer, un bar très connu des milieux anti-autoritaires lyonnais proposait une causerie de réflexion. Bon, alors on passera sur le fait que ce bar utilise le même titre que notre émission et que c'est pas un hasard, mais les mots ne nous appartiennent pas et on va pas aller leur faire un procès. Mais c'est plus le sujet, hein, qui m'a mis quand même un grand coup sur la tête. En effet, ce bar expliquait très tranquillement qu'il fallait sortir du ni Dieu ni maître se replonger dans ce que les écrits religieux et les croyances, toutes monothéistes, hein, ceci dit bien entendu, du judaïsme à l'islam, a priori il ne devait pas y avoir d'autres croyances dans le monde, hein, avaient de potentiel d'émancipation et de révolutionnaire. Et je déconne pas, hein, vous irez lire, c'est ce qu'ils ont écrit. Donc en 2024, on a donc un bar affiché très à gauche, hein, qui se retrouve à faire l'apologie des théologies soi-disant révolutionnaires. Ça va? Tout va bien? On se sent bien? Parce que moi, ça m'a franchement pas mis bonne humeur. Voilà. Alors, si c'était, seul lieu, hein, qui, si c'était le seul lieu qui propose des choses comme ça, on pourrait se dire que c'est pas bien grave. Mais combien de lieux proposent des ateliers de magie, d'astrologie, de découverte tantrique et autres bonnes choses comme ça, bien qui reposent sur que dalle. Pensez qu'on serait face à une vague matérialiste et rationaliste, hein, comme certains nous l'affirment, cette fameuse dictature scientifique qui écraserait tout, a quand même de quoi faire sourire. Hein, tant on voit au contraire, y compris dans les milieux censés porter l'émancipation au plus haut, revenir des croyances et des superstitions merdiques et avilissantes. Oui, j'assume mes mots. Hein. Voilà, excusez-moi, mais il y a des moments, ça m'énerve. Oui, parce que quand vous vous pliez à ces absurdités que peuvent être le fait que les autres aient que les astres, par exemple, aient quelque chose à faire de votre petite vie. Hein. Oui, oui. Alors, bah, je vous rassure. Les étoiles dans le ciel, mais elles n'ont rien à carrer de vous, hein. Vraiment.
Je crois qu'elles sont tamponnes.
Voilà. Ou même qu'elles aient une influence sur votre vie. Parce que c'est là que ça devient quand même un truc assez énorme d'imaginer que le micro-grain sur le petit grain sur le petit grain soit influencé. Enfin bon. Bref. Quand vous, vous remettez la sorcellerie et la magie, pas au sens du spectacle de magie, parce que moi j'aime bien les spectacles de magie, mais au cœur de vos vies et de vos choix, bah en fait, laissez-moi vous dire que vous vous asservissez vous-même. C'est ainsi ce qu'on appelle une croyance limitante, et que c'est limitant parce que n'importe quelle croyance ou religion est un outil pour limiter son esprit, se mettre des barrières, voilà. Et c'est quand même assez inquiétant.
Mais ouais. Surtout, il y a un truc quand même, c'est... Alors ok, on peut trouver des exemples de, dans des textes qui, machin. Mais je veux dire, la base quand même de tous ces textes, la base...
C'est qu'il y a un truc au-dessus de toi.
C'est qu'il y a un truc au-dessus de nous, qui a créé tout, qui dirige nos vies. Enfin, ah ouais. C'est quand même ça.
Ou des forces mystiques.
Je veux dire, c'est quand même ça. Donc ça veut dire que ouais. En validant les pseudo-apports pseudo-révolutionnaires, on valide le fait que... Ok, le monde a été créé en 7 jours.
Non, on valide tout.
On valide tout, on est d'accord. Ok,
tout
ouais.
Tout est bon.
Ça sent l'émancipation.
Mais je voudrais pas dire que c'est que religieux, parce que, encore une fois, les croyances dans l'astrologie, oui. Le fait de croire qu'il y a des signes, le fait de croire qu'on peut influer sur la vie ou sur les choix en se mettant à crier à la lune, à la pleine lune, qu'on l'aime et qu'on l'adore. Eh ben, en fait, tout ça, oui, ce sont des croyances limitantes. Et c'est ce qui fait qu'en fait, ben, désolé, mais on régresse quand on en est là. Je suis, pardon, hein, je le dis comme je pense. Et parce que ces outils que vous pensez peut-être émancipateurs, hein, voilà, ils n'ont d'autre dessein que de vous enfermer et finalement de vous canaliser, souvent sous le coup, parfois et très très souvent, de gourous et autres qui seront là pour vous ouvrir les portes du possible. Vous savez, cette fameuse personne qui va vous former à... Oui, c'est ça la notion de gourou, hein, au départ. C'est former à... Voilà. Donc, on y est, voilà, globalement. Alors... Je croyais que ça s'arrêterait là. Et puis, figurez-vous que même à Radio Canu, il débarque sans honte, hein, pour proposer de passer dans nos émissions. Et oui, alors vous allez rire, amis auditrices, auditeurs, parce que vous qui écoutez La Causerie, vous nous connaissez. Alors ça veut dire, il faut quand même gonfler. Bah ouais. C'est ainsi que La Causerie a donc été abordée par une charlatan. Pardon. Je dis n'importe quoi, par son attaché de presse et service de presse, pour venir présenter une de ses conférences sur l'ouverture chamanique et autres âneries. Oui, oui. On en est là. On a quand même quelqu'un qui a contacté La Causerie pour nous proposer de venir parler chamanisme et ouverture et l'autre soi et l'autre vision de la femme. Voilà, c'est génial.
Oui.
Autant vous dire que là, j'ai pas une semaine. Donc, ça commençait à faire beaucoup. Bon, alors on va arrêter de décoder deux minutes. Mais il y a quand même une vraie offensive religieuse et para-religieuse quand même en ce moment. Hein. Dans les faits, il faudrait vraiment quand même vivre dans une grotte pour ne pas remarquer l'offensive religieuse du moment, tous azimuts, hein, toute forme de religion, croyance et autres. Voilà. Que ce soit la télévision, la radio et autres médias, on peut dire que les religions sont là et quand même très omniprésentes. Hein. Alors, je rappelle quand même qu'en France, il y a 60% des gens qui se disent athées. Hein. Mm-hmm. Donc sans religion. Et malgré tout, en fait, l'un des sujets dont on parle le plus à la télé, c'est les religions. Donc, un truc, voilà, ou à la radio, ou d'ailleurs là, voilà, ou dans les écrits. Voilà. Tout comme toutes les croyances, hein, qui reviennent quand même un petit peu en force, de la psychologie à l'ostéopathie, en passant par l'homéopathie. Donc, rien que ça, là, vous avez un triptyque de trucs dont vous entendez parler tous les jours. Ou les pseudo-sciences, hein, qui ont pignon sur rue, genre la numérologie, la sophrologie, enfin, j'en ai plein des comme ça, tous les trucs en OJ, qui souvent ne donnent pas grand-chose. Voilà, mais c'est ça. Voilà. Mais en fait, il en va de même avec les superstitions aussi. Vous savez, ça revient bien. Un exemple, Figurez-vous qu'il y avait un 29 février cette année.
Oui.
Et ça arrive tous les 4 ans.
C'est fou.
Est-ce qu'il ne se serait pas passé un truc bizarre? Non, mais ça ne change rien, hein, c'est nous hein, qui fixons des dates. On aurait pu appeler ça le 30, le 32, le 54. En fait, ça ne changeait rien. Parce que j'ai quand même vu qu'il y avait des gens qui disaient le 29 février est une journée particulière et exceptionnelle. Votre karma ce jour-là va être démultiplié. Pourquoi? On ne sait pas. Mais c'est comme ça. Bon, c'est assez ridicule, mais ça marche. Et on va quand même aussi dire que dans la rue, c'est encore de plus en plus présent et de plus en plus pesant. Alors, les témoins de Jéhovah, les évangélistes, les prêcheurs musulmans, les scientologues, les raéliens, sont quand même en ce moment extrêmement présents, bien plus qu'à une époque. On en avait déjà parlé d'ailleurs dans l'émission il y a quelques années, mais force est de constater qu'après le Covid, et ben, ils mettent un peu les bouchées doubles. Hein. Ils sont un peu sortis en mode, ça y est, les gens ont eu peur, c'est le moment d'aller chercher. Allez, allez, il n'y a plus qu'à ferrer le poisson. Et avec quand même de sacrés moyens de diffusion, parce que moi je les observe, hein, parce que voilà, je ne me permettrai pas de les critiquer sur les observer. Avec de quand même sacrés moyens de diffusion. Donc ils ont quand même des livres gratuits, ce qui est déjà pas rien, parce que ça coûte hein, les livres. Des DVD et des Blu-ray. Ah oui, alors parce que maintenant ils se sont mis au Blu-ray, parce que attention, on monte en gamme. Mais ils ont aussi des clés USB contenant des textes soi-disant sacrés et des QR codes collés un peu partout. Donc ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'outils de propagande qui sont déployés et démultipliés pour des religions. Secte, alors, je vais le dire, je ne fais pas tellement de différence entre religion et secte, mais.
Une religion, c'est juste une secte qui a réussi.
Voilà. Et tous les trucs, vous savez, d'astrologie, numérologie, tous les machins en OJ, encore une fois, voilà, qu'on trouve, voilà. Donc.
Il y a aussi les petites étiquettes, vous savez. Des petites étiquettes des gourous, enfin pas des gourous, mais des maîtres, je sais pas quoi, vous pouvez appeler si vous avez des problèmes, soit de fertilité, soit d'érection.
Mais ouais, à la limite, ils font rire les
ouais,
marabouts
mais,
comme
sauf
ça.
Que c'est la même chose.
Mais c'est,
la,
mais c'est tout à fait la même,
c'est
chose.
La même chose.
On est tout à fait d'accord. Donc eux, ils ont bien compris comment utiliser politiquement la modernité hein, pour passer leurs idées archaïques. Ils ne se sont pas dit, oulala, on vit une vague scientifique qui va nous aviser. Non, ils se sont servis de la technologie. Vous voyez la différence entre science et technologie, elle est là. Ils se sont servis de la technologie pour se démultiplier et aller un peu partout. Et il ne faut pas sous-estimer hein, l'explosion des contenus religieux, spirituels et superstitieux sur les réseaux sociaux aussi. Parce qu'alors là, qu'est-ce qu'on en bouffe? Si vous avez un peu de temps, allez vous balader sur les vidéos, les mini-vidéos qui sont faites. Et puis, ben, avant de le faire, faites un truc, c'est que vous postez un truc sur votre mur, vous savez, sur Facebook, Instagram, n'importe quel réseau social, vous postez un truc en lien avec le religieux. Mais même, vous pouvez juste écrire « j'aime pas les religions ». Ben, vous écrivez ça. Mais l'algorithme, il va voir religion. Donc il est bête l'algorithme, il va dire ah, ils veulent voir des trucs sur les religions. Et donc là, vous allez vous balader après sur les vidéos et d'un seul coup, vous allez en voir du prêche, du Dieu va vous sauver, du si tu as les bonnes pierres entre dans tes poches, ça va aller. Enfin tous ces voilà. Bon, pas l'intérêt des pierres, mais j'ai toujours pas compris moi. Voilà. Donc bref, c'est bien aussi quand même une période de, la période du confinement hein, qui a imposé ces courants parce que finalement, ils ont compris comment se servir des réseaux sociaux pendant ces périodes de 2 ans où finalement on sortait beaucoup moins, mais où on était beaucoup plus sur les écrans, globalement. Et comme pour les réactionnaires, hein, finalement, hein, comme pour l'extrême droite et les réactionnaires, ils ont trouvé des portes de sortie ou des moyens de continuer à servir de nouveaux adeptes au travers des outils numériques. Pendant que d'autres sont en train de dire « Oulala, faut surtout pas y aller, et c'est caca ». Voilà. Alors, c'est quand même la contamination généralisée hein, d'une époque qui, moi, m'inquiète quand même fortement. Dans une époque de doute, hein, comme celle que nous traversons, avec ces guerres, les dérèglements climatiques, les virus qui partent en pandémie, parce que d'un coup, ils se sont dit, il y a longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Donc voilà, on peut dire que c'est quand même... on est quand même face à une période où la rationalité serait en réalité la meilleure des réponses. Parce que quand on reste rationnel, bah, on évite de paniquer. Le principe de la panique, c'est quand on perd la rationalité. C'est un peu le truc, quoi. Mais... ça impose cette rationalité de regarder en face le monde, ce qu'il s'y passe, d'accepter que l'humain est un animal décidément complexe, qu'il n'y a pas de solution facile, même pas le grand soir, et que la complexité est le cœur de toutes les réflexions politiques à avoir. Eux, allons-y gaiement, c'est quand même vachement plus chiant que de dire que si tu cries à la lune, ça va bien se passer. Seulement, c'est plus facile donc de se plier, de se soumettre, de se cadenasser à des croyances, à des superstitions, à des choses comme ça, à ce qu'elles ont de plus simpliste et de solutions de facilité ou de solutions faciles et toutes faites. Parce que c'est facile en fait. Et l'être humain, il est feignant. Alors rappelez-vous que votre cerveau, il est feignant aussi. Et donc vous allez avoir tendance des fois à vous laisser entraîner dans la facilité. Mais il faut éviter quand même. Parce qu'en fait, elles sont confortables, hein, ces croyances, ces superstitions, parce qu'elles donnent des réponses fausses, mais simples, ou l'impression que l'on garde une main, d'ailleurs, sur son propre destin.
Elles donnent des réponses.
Ouais, elle donne des réponses. C'est elles sont fausses, mais elles donnent des réponses.
Mais elles donnent des réponses.
Parce que, par exemple, il faut quand même que vous sachiez que si vous avez une agate rose dans la poche droite, normalement, la chance vous sourit. Hein, donc, vous gardez quand même une main sur votre destin. Je déconne pas, hein, c'est vraiment écrit, ça. Je l'ai trouvé sur un site de pyrologie. Non, ils mettent un nom plus sérieux, mais moi, je vais pas le dire. Voilà. Elle caresse, hein, quand même, ses croyances et ses superstitions, dans le sens du poil. Le sentiment, finalement, de vouloir être unique, élu, au-dessus de la masse, différent, parce que c'est ce qu'on aime, en fait. Nous, l'être humain, on a toujours l'impression, on a toujours un peu l'envie d'être un peu différent des autres. Finalement, le fait que le religieux, le para-religieux et les superstitions reviennent en force n'a rien finalement de surprenant dans un monde où les connaissances scientifiques sont globalement niées, car souvent jugées comme trop complexes, où finalement on préfère aussi avoir raison, parce qu'avoir raison, c'est devenu un peu la norme. On a raison et les autres ont tort. Ou la fameuse phrase, tout le monde a le droit de dire ce qu'il pense. Alors je rappellerai que cette phrase est vraie, mais on a aussi le droit de contester ce qui est dit. Hein. C'est pas parce qu'on laisse parler les gens qu'on peut pas les contester. C'est pas un blanc-seing. Ah voilà. Non, mais bah quoi, c'est vrai.
Oui oui, ah non mais t'as raison. Hein. Non mais je veux dire, enfin on sait bien la causerie, le point de vue qu'on peut porter sur tout ça.
Et vous avez le droit de nous contredire.
Et, oui oui, et je veux dire, on a déjà eu des remarques, on était phobe de je sais pas plein des religions. En fait, on n'est pas phobe en fait, on est
j'ai pas peur des religions,
on est antithéiste. Mais en fait,
et puis il faut être clair, j'ai pas peur des religions.
Non, et puis non, mais
j'ai peur ce qu'est les conséquences des religions.
Et derrière, ça ne veut pas dire que parce qu'on pense cela, on veut la mort de toutes les personnes pensent ou qui croient ça.
Ah bah non.
On veut la mort des croyances.
Mais pas des croyants.
Mais pas des croyants ou des. On veut pas la mort des humains.
On va même le présenter autrement. En fait, nous, on est un peu. Voilà, c'est ce que j'ai écrit après. Donc je vais le dire, c'est qu'on essaye à la causerie en fait de contrer cela, hein, et en fait d'essayer d'élever le débat pour que d'amener du débat de façon à ce que chacun puisse se passer des béquilles qu'on avait tous eues dans notre vie, moi y compris. On a tous eu des béquilles de croyances, superstitions, peurs, machin, parce que c'est des béquilles et ouais, mais s'en passer pour arriver à marcher un peu mieux et se sentir mieux. Voilà. Et on sait qu'on n'est pas grand chose, la causerie, et on en a conscience, parce que c'est pas grave, on fait nos petites émissions, on fait ce qu'on peut, hein, voilà. D'ailleurs, on aurait sans doute plus de succès, hein, je pense, si on lançait un horoscope en le disant queer et déconstruit, hein, par exemple, ou une lecture des textes sacrés revisités à la sauce inclusive. Ouais. Ça, je suis persuadé qu'on aurait du succès.
Est-ce que ça change tout?
Ben non, mais mais ça donne l'impression que c'est plus cool. Voilà. Mais en fait, désolé, en fait, nous ici, on est dans une émission matérialiste, pro-science, qui n'a pas pour base, finalement, qui n'a pour base que la fin des religions et des superstitions. Donc, on va pas vous faire ça. Voilà. Et c'est pas parce qu'on vous aime pas, hein. C'est pas parce qu'on vous juge non plus. C'est juste notre position, notre vision du monde, notre façon de le voir. Et qu'on pense sincèrement, tous, je crois, je pense que je peux me dire pour tous les gens qui sont ici, même si Clara est en train de s'endormir. Pardon. Oh, pardon. C'était de la goudette. Elle a paillé. Voilà. Mais je crois que je peux dire pour tout le monde, c'est qu'à la causerie, en fait, on essaie juste de vous dire, on peut se passer de ça, on y arrive, et vous devriez y arriver aussi, peut-être. Et on a juste envie de vous donner l'envie de tenter.
Bah encore, moi, là aussi, enfin, c'est un truc qu'on a souvent parlé, c'est peut-être un truc que je redis souvent. Moi, que les croyants cherchent à développer leur idéologie, parce que toute croyance est une idéologie, donc on va se le dire ou pas, mais ça porte un dessin politique. Et ça, à la rigueur, c'est assez logique. Ce qui me dérange beaucoup plus, c'est dans nos pseudo-milieux, pseudo-révolutionnaires, pseudo-anarchs, pseudo-je sais pas quoi, en fait, on vient nous vendre les religions comme un outil de libération. Mais il faut jamais avoir été soumis à un seul Dieu pour oser dire ça, en fait. Ouais. Et moi, c'est ça qui me dérange souvent. C'est que souvent, dans nos milieux, ceux qui vont porter ça, eh ben, ils viennent de gentilles petites familles athées, machin, et ils ont une sorte d'exotisme pour les croyances, parce qu'eux ne les ont pas connues. Eh ben, j'ai envie de vous dire que, en tout cas, là, sur l'équipe, il y a plus de la moitié qui a connu la soumission à un dieu.
Les deux tiers.
Les deux tiers.
Et je suis le tiers restant.
Et je veux dire, à un moment donné, enfin, oui, on peut en parler, mais parlons-en sur du fait, sur du réel,
sur du
et pas sur du fantasmé que Et puis surtout, que je suis désolé, dans nos milieux, on adore ça, en fait. Il y a un côté exotique et vraiment, oh là là, le gentil petit croyant ou la pauvre petite croyante. Encore une fois.
Quelle que soit la religion,
d'ailleurs. Mais ça, je m'en tamponne. Mais c'est juste, revenons sur des bases matérialistes. En fait, si on écoutait des gens comme vous, là, petit anard ou rebelle ou je sais pas quoi, qui adore sucer des cierges et tout ce qui va avec,
et ben en fait on se libérerait jamais en fait de l'emprise des religions.
Empêcher les, enfin, en ne confrontant pas l'idée, en voulant être forcément sympa avec la personne qui est en face, ben vous empêchez ce qui est quand même la base du débat politique, c'est la confrontation.
Mais bien sûr,
à un moment donné, on doit se confronter et pouvoir dire, mais en fait, tu sais, on peut vivre sans ses croyances.
Mais parce c'est pas que grave. Mais parce que ça aussi, en fait, ça on ne veut pas se le rendre compte, c'est que quand on vit souvent dans des milieux croyants, on ne se rend pas compte de ce que peut être un monde sans croyance, une existence sans croyance.
Parce que personne ne l'affirme.
Parce que personne ne l'affirme.
Ou alors on vous affirme que c'est le diable.
Voilà, tu vois, c'est ça.
Le pire machin et tout.
Et qu'en fait, tu dis, bah, en fait, si jamais personne n'osait dire, bah, en fait, tu sais, pour moi, Dieu n'existe pas, et ben bah, en fait, quand on est dans des milieux fermés, et ben bah, on ne saurait pas qu'on peut exister sans croyance. Parce que la croyance, c'est pas comme le fait d'être noir, d'être une femme, d'être un mec, d'être LGBT. C'est pas ça. Une religion, c'est quelque chose qu'on vous inculque, qui n'est pas une donnée.
Ou qu'on choisit parfois.
Ou qu'on
de
choisit.
Rejoindre,
ouais. Oui, ou qu'on choisit. Je suis de, mais c'est surtout ça que je veux dire, c'est que c'est un choix. Ou même s'il est imposé à l'enfance, c'est un choix des parents de l'imposer.
Ah oui, bien sûr.
Aucun parent n'impose la couleur de ses enfants. Aucun parent n'impose la sexualité à ses enfants. Ah si, dans l'hétérosexualité. Mais ce qui va nier, enfin ce qui va emmener, enfin bref, je me perds. Mais c'est juste, c'est ça le truc en fait, c'est qu'on parle de quelque chose qui est un choix. Oui, dans la vraie vie, on peut choisir de ne pas croire. Et juste des fois, quand t'es dans des milieux fermés, entendre ça, et ben d'un coup tu dis, ah mais vraiment? On peut ne pas croire. Et en fait, là où les croyants vous diront « Mais si tu ne crois pas, tu vas être puni par Dieu », eh ben, tu te rends compte que d'un coup, il y a des gens qui affirment ça et qui ne sont pas foudroyés. Et qui, non mais tu vois, et que d'un coup tu dis
bah ouais, moi,
ah ouais en fait c'est possible et on n'en meurt pas.
Peut-être c'est ça qui m'arrive en ce moment. qui est pas très sympa.
Pardon, je sais pas si je suis clair, mais voilà.
Non, t'es clair. Mais, et puis moi je vais juste te dire quand même une chose, c'est qu'on remplace pas une béquille par une autre béquille. Non. C'est-à-dire que sortir du religieux pour rentrer dans le para-religieux, dans les superstitions, dans tout ça, ce n'est que remplacer une béquille par une autre
par
béquille.
Une autre.
Et c'est pas comme ça qu'on apprend à marcher sans béquille. Voilà, je vous le dis très sincèrement. Alors je sais que la causerie, on est rare, on se fait rare hein, le genre d'émission comme ça, un petit peu revêche. Okay, voilà. Mais on va pas quand même lâcher la rampe sous prétexte d'être à la mode, parce que sinon on ferait pas la causerie. Voilà. Alors donc, moi j'avais à titre personnel fini par une phrase que j'aime beaucoup. Que crèvent les religions et les superstitions, elles ne sont que le kérosène de l'incendie de la haine. Voilà.
Drop the mic. Je crois qu'il n'y a plus rien à rajouter.
Bah non, mais musique.
Allez.
J'aime quand tu parles, et tu me dis que tu t'aimes passer. Et si tu casses, je viendrai te réparer. J'aime quand on danse et que l'on finit allongé. Et tu me dis ne t'approche pas lorsque tu pleures, lorsque tu pleures. Tu retrouveras ta chambre, celle où j'ai pas le droit de rentrer, où les murs sont un peu trop blancs pour te soigner, pour te soigner. Plus le cœur t'attendre, c'est que j'ai plus le cœur en entier. Et tu me dis ne t'approche pas lorsque tu pleures, lorsque tu pleures. Tu aimerais prendre de la hauteur tu me dis que tu t'aimes passer. Et si tu casses, je viendrai te réparer.
Et si tu casses, je viendrai te réparer. Voilà, c'était dans la causerie au centre de deux sur RadioCanu.org, c'était The Doug. Et moi, je vais le dire, The Doug, c'est une de mes découvertes de cette année. Ce type, je trouve, arrive à vous retourner en une chanson. C'est juste fou. Il a une plume géniale. Les musiques sont souvent très travaillées. Et en plus, bah, il a une voix, mais vraiment... qui surprend, je sais pas comment dire. Donc découvrez l'univers de The Doug, parce que c'est vraiment très très bien. Et puis ça fera peut-être taire tous ceux qui nous disent il n'y a plus personne qui sait écrire et chanter aujourd'hui. Bah si, il y en a plein en fait, mais c'est juste que vous les écoutez pas. Alors écoutez donc The Doug, et vraiment, il y a l'album qui arrive, j'ai hâte. Je le dis très sincèrement. Voilà. Ce sera mon Altarba à moi. Ce sera The Doug. Vous allez en bouffer, je pense. Voilà.
Je passe aussi The Idols, The Four Modes. Enfin, je veux dire, je suis pas fanatique que d'un.
Non,
artiste.
Mais non, mais en tout cas, voilà. Donc, je le redis, The Doug, allez voir ce qu'il fait.
Et
voilà.
Le titre, c'était.
Ah, et le titre, c'est Réparé. Voilà. Et vraiment, c'est très beau.
Voilà.
Et ben, on passe. Encore, je peux faire 20 minutes.
Non, c'est bon, non, parce que on est un peu pressé par le temps, donc on va plutôt y aller si ça te dérange pas.
Allez, vas-y, ouais, fais-nous des brèves.
Tu es trop gentil. Alors, ça commence mardi 5 mars avec une soirée Lyon Info Migration dont le thème c'est quelles conditions de travail pour les personnes étrangères. Donc l'idée c'est justement de quel accès au travail pour les personnes migrantes, quels sont les secteurs qui emploient les sans-papiers, sous quelles conditions, quels recours les syndicats peuvent-ils apporter au cas par cas, mais aussi dans les luttes collectives, etc. Donc ça se passera à l'Amicale du Futur, donc mardi 5 mars de 18h30 à 21h. C'est en compagnie, en présence du collectif des sans-papiers du Rhône, CSP69, et en compagnie aussi du syndicat CNTSO, donc CNT Confédération Nationale du Travail, Solidarité Ouvrière pour le SO. Voilà, donc ils invitent à vous inscrire plutôt, donc évidemment n'hésitez pas à vous inscrire si pour faciliter un peu les tables tournantes, etc., etc. C'est pas des forces occultes, mais c'est des tables tournantes par thématique.
Oui, j'avais bien compris.
Non, mais je précise. L'autre info, évidemment, vous l'aurez certainement deviné, c'est la grève féministe pour le 8 mars. C'est Rassemblement et Manif à Lyon. Donc, évidemment, beaucoup d'évidemment dans ces phrases.
Mais t'aimes bien ce mot.
Ouais, là, ce soir, je suis amoureux du mot, évidemment. Donc, c'est à partir de 12h30, place Jean Massé à Lyon, c'est Lyon 7. Donc là, ce sera pique-nique et atelier de pancartes, etc., etc. Mais si t'as pas envie de pique-niquer dehors, si t'as pas envie de faire de pancartes, t'as bien le droit. Mais c'est à 14h que ça commence la manif. Donc, voilà, enfin, je vais pas faire une retape sur tout ce qui se passe autour des inégalités. Mais, vous devez savoir quand même qu'on n'est pas dans un monde d'égalité, quoi.
En tout cas, ce serait bien qu'en France, on arrive au même degré d'implication qu'en Espagne ou en Italie pour les grèves féministes qui arrivent à faire s'arrêter le pays quasiment. Et quand on parle de grève, on parle vraiment de grève. Donc, c'est-à-dire, on va pas travailler et puis on vient défiler. Voilà.
C'est ça. J'ai dit le vendredi 8 mars à partir de 12h30 ou 14h si t'as juste envie de manifester. L'autre info, c'est samedi 9 mars à l'Illégalité. Donc ça, c'est un lieu sur Villeurbanne à la station Cusset, le long du métro Cusset, on va dire. Donc c'est journée de rencontre sur les femmes, sur les luttes de femmes exilées. Donc c'est en mémoire de Blessing Mathieu, décédée en 2018 alors qu'elle était traquée par la police et tentait de rejoindre Briançon, pour ne pas oublier celles qui ont lutté et pour soutenir celles qui continuent de lutter. Donc il y a de la projection, il y a des discussions, il y a des petits goûters, et il y a aussi évidemment des discussions autour des femmes exilées face aux violences de l'État, etc., etc. Et le soir, il y a un DJ set de 21h à 1h du mat. Et évidemment, l'argent collecté dans la journée sera reversé au collectif Solidarité entre femmes à la rue. Donc, à l'Illégalité, le 9 mars.
Mais si le DJ set, il s'arrête trop tôt, est-ce qu'on peut aller ailleurs pour continuer la fête?
Voilà. Il est bon, lui. Toi, je te prédis un avenir incroyable à la radio.
Je sais, j'ai mon agathe rose dans la poche droite.
C'était donc ça. Donc, bah, si t'as envie de continuer de danser, c'est à GZ qu'il faut aller, GZ Grande Zéro, c'est à la limite entre... non, c'est à Vaux-en-Velin déjà. Ouais,
c'est rue de Bolène.
Ouais, c'est rue de Bolène, c'est à Vaux.
C'est après le Carré de Soie, pour ceux qui connaissent, vous continuez après le Carré de Soie, tu marches 300 mètres,
c'est
là.
C'est ça. Donc, c'est Rituel 2, Techno for Refugees. Donc, il y avait déjà eu une première session, on va dire, une première soirée rituelle, à Grande Zéro. Donc c'est l'idée de prolonger, alors souvent les dimanches, il y a des dimanches de solidarité en journée avec les jeunes sans pape et tout, et en fait dansons, fêtons et amusons-nous aussi parce que c'est pas interdit. Donc c'est à GZ à Grande Zéro, ça commence à 18h par de la boxe, après il y a un open mic et après il y a des DJ sets, il y a de la techno, de la dark disco, il y a de la techno révolte, de la tribe mental, de la art techno. Enfin voilà, ça termine à normalement 5h du mat.
Oh, c'est bien.
5h du mat.
C'est bien.
Donc effectivement, si après l'illégalité t'as envie de continuer de danser, toujours pour des bonnes causes.
Ah, juste à côté, hein, donc tu traverses le périph', t'es pas loin.
C'est vrai, t'es pas très loin.
T'es un quart d'heure à pied.
Et on rassure les Lyonnais, vous n'avez pas besoin du carnet de vaccination pour traverser le périph'. Non, parce que déjà, des fois, sortir de la presqu'île, c'est dangereux pour eux, alors bon. Oh, je suis taquin.
Et promis, on est accueillant dans le quartier.
Bien. Juste aussi, quand même, pour info, Grande Zéro, vous pouvez pas utiliser votre CB, donc il faut mettre une en cash. Ouais. Voilà, donc ça fait quelques activités militantes, dansantes et manifestantes. Et l'autre dernier rendez-vous, c'est dimanche prochain. Bah, c'est la causerie très égocentrique, cette info. Donc, c'est à partir de 22h, évidemment, vous l'aurez compris, sur le 102.2 de la bande FM. Et on recevra Pierre Lemerle et peut-être d'autres personnes pour causer autour de rue 89 Lyon, qui est donc.
Et de la presse indépendante.
Et de la presse indépendante et d'un appel
à soutien
et à abonnement, etc., qui va avoir lieu. Donc, on aura le plaisir de causer de rue 89 Lyon. Préciser toujours rue 89 Lyon, parce qu'il y a des rues 89 ailleurs, ouais. Mais la rue 89 Lyon est indépendant, et donc voilà, donc c'est le rendez-vous de dimanche prochain sur l'antenne de Canu.
Et si tu veux nous joindre, c'est lacauseriecanu@gmail.com, si tu veux retrouver toutes les émissions dont celle-ci qui sera mise en ligne demain, c'est blogs avec un s.radiocanu.org/lacauserie, blogs avec un s.radiocanu.org/lacauserie, ou tu vas sur ton moteur de recherche, la causerie Canu, normalement tu nous trouves. Si tu es plutôt adepte de la balado-diffusion, autrement dit des podcasts, tu vas dans ton agrégateur de podcasts et tu tapes La Causerie Canu et tu devrais nous trouver parce qu'on est partout, c'est magique. Et là, tu peux nous écouter parce que normalement, c'est vachement bien fait, ça renvoie le son de l'émission.
C'est fou,
bien.
Hein.
Voilà. Et si tu nous entends pas, nous, c'est que tu t'es trompé de causerie. Alors tape La Causerie Canu. Et dernier point, on est aussi sur Facebook, mais en fait, on n'y fait pas grand chose d'autre que de faire de la pub. Donc si tu dois nous écrire, écris-nous sur notre blog ou sur l'adresse mail lacauseriecanu@gmail.com. Voilà. Et sur ce, on peut vous laisser.
C'est ça. Je fais une petite retape. Si t'as envie d'avoir un petit sticker sous deux de la causerie, t'hésites pas, t'envoies un petit mail.
Avec ton adresse, c'est mieux.
on se prévoit ça et on vous envoie des petits stickers. Et peut-être s'il y en a encore, des petits stickers de Radio Canu ou peut-être une grille de programme, s'il y en a aussi.
Voilà.
Parce qu'on rappelle qu'on est autogéré, donc des fois, à l'autogestion, il n'y a pas de...
Des fois, il y a de l'auto, mais pas de gestion.
ça
arrive.
Voilà. Donc là, maintenant, vraiment, je ferme ma grande bouche et je crois que c'est Clara qui nous annonce le dernier titre.
Ouais. Et c'est Two Lanes avec le titre Feel.
Ah bah on file alors.
Ah donc tu dis plus rien d'autre. Donc on se donne quand même rendez-vous dimanche prochain à partir de 22h sur l'antenne de Radio Canu.
Tu venais de le dire non?
Il faut toujours le redire, c'est l'art de la répétition. Allez, on vous fait des bisous, bonne semaine,
bisous,
bon courage.
Ciao. Et à la semaine prochaine.
Ciao.